des livres plein les oreilles. Alors vous le savez maintenant, l'émission un livre découvert est morte et enterrée, mais on a remplacé ça par des livres plein les oreilles parce qu'on trouve que ça sonne un peu plus livre audio. Et aujourd'hui à l'émission, oh là là, restez assis. Alors aujourd'hui à l'émission, je reçois trois personnes. Nous allons nous entretenir au cours de la première demi-heure avec Gérald Cousineau au téléphone, qui a très envie de nous parler d'un livre de Dominique Fernandez. Je reçois Jacques Tremblay aussi, qui a lu pour vous un livre de Dany Laferrière, et il viendra nous en parler en deuxième partie de cette émission-là. Puis je me suis dit, tiens, après tout, puisqu'on parle d'un livre de Dany Laferrière, invitons Dany Laferrière. Alors j'ai aussi en studio Dany Laferrière avec nous. Dany Laferrière, c'est un immense honneur que vous nous faites.
Ah moi, c'est un plaisir. C'est un plaisir.
Oui, parce que je me disais, d'abord, il faut que je dise que je suis quand même très énervée. Généralement, je suis toujours bien calme, mais là, je suis un petit peu énervée parce que c'est vrai que on n'a pas envie de ne pas être à la hauteur lorsqu'on reçoit un homme, je me dis, comme Dany Laferrière. Il faut qu'on vous accote, comme dirait l'autre. Et puis, c'est pas évident, on se le disait hors onde avec Jacques Tremblay.
C'est une fébrilité,
et parce que vous avez une telle densité dans l'écriture. Moi, généralement, je surligne, je coche, je martyrise beaucoup les livres. Et je me disais, mais si je voulais vraiment surligner tout ce que j'ai envie de surligner, le livre entier serait jaune quasiment. Vous comprenez? Et alors, donc, c'est pour ça qu'on se sent très, très intimidé. Vous savez, quand j'ai décidé de vous inviter et qu'après j'ai lu ce que je vais vous lire là, j'ai su que vous alliez venir. C'est dans votre chapitre, dans l'art presque perdu de ne rien faire, ça s'appelle « Le voyageur aveugle ». Et c'est à la page 117. Et vous vous souvenez de ce vieil aveugle qui disait toujours, lorsque vous irez de l'autre côté, j'imagine que c'est une rivière, et vous viendrez me raconter comment c'est. Et vous vous dites, c'est ça, il incitait les jeunes à aller voir de l'autre côté du morne Tapion. Vous reviendrez un jour m'en parler et vous dites, je n'ai jamais écrit une seule ligne pour décrire un nouveau paysage sans penser à lui.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, je l'ai bien connu.
Oui, hein?
Oui, Gambetta, il s'appelait.
Et vraiment, tout ce que vous écrivez souvent lorsque vous décrivez quelque chose, c'est vrai que vous pensez à cet homme-là et vous pensez...
J'y pense même quand j'y pense pas. Il est un peu l'origine de tout cela. Et il m'arrive de voir son visage devant moi et de nous revoir, puisque j'étais avec des amis. Et quand il a regardé les lignes de la main de chacun de nous et qu'il s'est arrêté sur les miennes pour me dire qu'il y voyait là un destin étrange, un destin de voyageur.
C'est un livre que j'ai eu du mal à lire, moi. Pas parce qu'il est difficile à lire, mais parce que j'ai voulu prendre le temps de le lire. On ne peut pas ne pas prendre le temps de lire ce livre-là. Je me disais en préparant l'émission que vous maniez la langue, la mangue et la langueur.
Ah, mais merci.
Avec un talent. On commencera peut-être par cette fameuse mangue parce que c'est le tout début du livre. Moi, je vous avouerai que maintenant, j'ai un fantasme terrible qui est celui de me ramasser avec vous, vous comprenez bien, au pied d'un manguier, de me délecter d'une mangue. Une mangue qu'il faut respirer longuement, dites-vous, avant de la dévorer jusqu'à ce qu'il ne reste plus une once de chair, ni non plus une goutte de jus. Puis vous lavez le visage et le torse dans la cuvette d'eau avant de retourner à votre chaise. La mangue de midi est la grâce du jour.
Oui, c'est vrai, je voulais rappeler qu'il y a des rituels de nourriture. C'est un des actes les plus important et le plus luxueux qu'on connaisse, manger, et qu'on le fait de plus en plus par habitude, on a tort. Manger une mangue, c'est quelque chose de magnifique.
Et s'arrêter aussi, c'est quelque chose qu'on fait de moins en moins.
Oui, bien sûr.
Et ça, c'est un hymne, au fait, c'est un hommage à l'arrêt dans le temps, prendre le temps de voir, de goûter, justement, de lire ce livre, « L'art presque perdu de ne rien faire ». Alors ma question, comment vous faites en ce moment avec votre agenda d'académicien, quasiment votre agenda de ministre?
Oui.
Comment faites-vous?
Oui, mais j'allais faire une différence entre ralentir ou vivre le moment Et il ne s'agit pas d'aller lentement pour aller lentement. Il faut qu'il y ait quelque chose à goûter aussi. C'est pas, et comme je disais à ma mère qui trouvait que je mangeais vite quand j'étais enfant, elle dit, tu ne goûtes pas. J'ai dit, non, je mange vite et je goûte tout. Et ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est comme ça que je suis aussi dans les musées. Je vais une première fois très vite et je vois les choses différemment que quand je vais lentement. Je n'ai pas écrit ce livre pour effacer la vitesse.
Non.
C'était pour éliminer plutôt, pour rappeler que la précipitation ne mène à rien. Il y a nuance. La vitesse a aussi son ivresse particulière. Et ça n'a rien à voir. Il ne s'agit pas. Et le ralentissement qui est fait, qui est faux, c'est celui dont ma grand-mère me parlait. Et quand elle disait, si elle donne l'impression de ralentir, c'est à cause de son arthrite. Et ça n'a rien à voir avec une philosophie. Donc le ralentissement qui est intéressant, c'est celui d'une volonté.
Bien sûr.
On veut ralentir parce qu'on veut goûter plus les choses. Encore ma grand-mère, je lui demandais pourquoi elle allait si vite sur le tard de sa vie. Elle m'a dit, c'est normal qu'on se précipite quand on grimpe une montagne pour arriver à la hauteur et au sommet de la montagne et voir ce qu'il y a de l'autre côté. Mais quand on a vu ce qu'il y a de l'autre côté, on n'a pas envie de descendre trop vite.
Dany Laferrière, je vous écoute parler et j'ai le sentiment, c'est évidemment pas la première fois que je vous entends parler, que vous parlez avec une voix de plus en plus grave et que vous parlez de plus en plus lentement. Est-ce que ça participe du même principe de cette... Je sais pas, est-ce que vous avez remarqué ça vous-même ou pas du tout?
Ah non, j'ai remarqué ça, bien sûr, parce que
Ah
ah oui, j'ai collaboré.
ah,
Ah oui, bien sûr.
c'est volontaire.
Tout à fait. Mais c'est un travail, c'est pas une volonté du moment. C'est un travail. Quand j'ai écrit L'énigme du retour, et je sentais que c'était un moment dans ma vie d'écrivain. Et ça ne voulait pas dire une opinion, ce n'est pas une opinion sur la qualité du livre. C'était un moment, par la forme, le rythme déjà que je questionnais, le rythme précipité, et il me fallait retrouver ma voix première. Et pour cela, j'ai quitté la télévision où je travaillais, j'ai quitté la radio, j'ai quitté le journal. Et parce que je sentais qu'il y avait un formatage. Et puis un goût de dire les choses de manière plus compacte et une obligation quand on fait une chronique à la radio, et ça pouvait toucher ma voix. C'est pas que je sois contre cela, je l'ai fait pendant près de 30 ans, et c'est que je voulais un autre ton, je voulais parler comme écrivain, je voulais que le silence puisse participer à ce que je dis. Je ne voulais pas que ce soit en forme tout le temps de répartie et m'écarter du brillant pour entrer dans un chemin plus grave, comme vous dites. Vous parliez plutôt de la voix, mais aussi ce que je pense.
Oui, parce que vous avez, il y a des moments très, très graves dans ce. Hier, par exemple, alors que je préparais l'émission, vous parlez de la guerre, entre autres, et à quel point aujourd'hui, je suis en train de rechercher la page exactement, quand je vous dis que j'ai pris bien trop de notes pour préparer cette émission-là, mon ami. Quand vous dites, voilà, à propos d'enfants, autrefois, il y avait ce tabou, le tabou de l'enfant, on semblait tous d'accord pour le garder hors de nos querelles. Plus maintenant. Les enfants meurent des deux côtés, sous les bombes ou les roquettes, et personne ne semble s'en offusquer. On trouve ça presque normal. Nous sommes devenus définitivement malsains pour l'espèce. Et ce qui est terrible, c'est le « on » et le « nous », parce qu'évidemment, en tant que lecteur, on se dit « mais oui, c'est vrai que je participe à ça ». Je vous sentais, dans ces pages-là, dans un état de colère. Est-ce que c'est
Oui.
vrai? Oui. C'est quelque
Oui.
chose qui vous met en colère, ça.
Oui, on parle un peu partout d'enfants soldats. Et quand on apprend, par exemple, que les États-Unis n'ont pas signé contre une chose, une forme aussi horrible, ce qui est le fait que des pays forment des enfants soldats, qu'un pays comme les États-Unis ne soit pas contre ça, et trouve ça normal, c'est-à-dire refuse de signer ou des choses comme ça. Alors, et pour des raisons et tout simplement politiques, sûrement pour essayer, sûrement parce que peut-être ils ont fait ça d'une manière ou d'une autre. Ils y participent, ils ne voudraient pas que ça retourne contre eux. Et là, il y a une colère possible parce que là, on touche vraiment à une zone. En fait, toutes les lois du monde ont toujours tenté de protéger les enfants.
Bien sûr. vous avez été bien sûr l'enfant de quelques femmes. Et à un moment donné aussi, vous avez, je vous vois sourire d'ailleurs quand je dis ça, parce que vous rendez hommage à ces femmes-là. Par exemple, il y a ce moment très beau, alors que vous êtes en train de vous saouler avec quelques copains et de refaire le monde. On parle de littérature justement, de guerre, de tout ça. Et il y a votre mère qui vous attend sur le balcon. Et là, on se dit, oh là 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 là, il va y goûter le petit chou là. Et pas du tout, votre mère vous accueille avec une tendresse infinie. Et vous dites, elle n'avait qu'à dire qu'elle avait peur pour me couper les ailes, elle ne l'a jamais fait. C'est cette forme de résistance qui empêche le monde de sombrer dans les ténèbres où les puissants veulent le voir. La main de ma grand-mère, donc c'était votre grand-mère, pardon, qui efface les fièvres causées par l'angoisse. Ah ben c'est ça, ou le sourire douloureux de ma mère qui m'accueille du fond de la terrifiante nuit, parce qu'elles étaient dangereuses ces nuits-là, on ne savait jamais ce qui pouvait arriver, c'est bien ça. Et alors cette dernière phrase, voyez-vous, hier j'avais les larmes aux yeux, puis ça me fait la même chose. Les femmes m'ont permis de rejoindre l'aube.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai découvert la clé pour ouvrir une porte à Montréal. Parce que en Haïti, à Petit-Goave, où j'ai passé mon enfance, ou à Port-au-Prince, où j'ai passé mon adolescence jusqu'à mon départ d'Haïti, j'avais jamais vu une porte fermée. La porte chez moi n'était jamais fermée. Les femmes se réveillaient avant tout le monde et dormaient après tout le monde. Ouais. Donc, ça veut dire que je rentrais toujours, il y avait la possibilité, il y a toujours quelqu'un derrière la porte, il y a toujours quelqu'un pour m'ouvrir la porte. Donc j'ai découvert cette petite clé qui est le symbole de la responsabilité intime, personnelle, individuelle, en arrivant à Montréal, en louant une chambre au Carré Saint-Louis. Et c'est là que j'ai compris qu'on ne pouvait pas être un écrivain si on ne connaît même pas, si on ne peut même pas ouvrir sa propre porte. Il y a quelque chose de magnifique, de grandiose dans le fait que ma mère et ma grand-mère m'ont empêché d'avoir la moindre responsabilité, mais en même temps aussi, il faut quand même quitter le nid pour devenir quelqu'un. Je ne peux pas me permettre de donner des conseils aux gens dans les livres sans avoir jamais eu une clé dans ma poche.
Le problème de la culture, dites-vous, c'est qu'elle se nourrit de la vie de gens à qui cette culture, une fois maquillée, n'est plus destinée. Je dois préciser que nous écoutons cette émission-là, nous la diffusons pour la première fois le 16 septembre, mais je vous ai, entre guillemets, kidnappé alors que vous étiez président du jury des festivals. On a vu quelques-uns. Alors, vous êtes en ce moment, vous baignez dans la culture cinématographique, qui d'ailleurs, dites-vous, à un moment donné, dans ce livre, est quelque chose qu'on fait ensemble, contrairement à la lecture, hein, qui est un acte très, 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 très solitaire. Comment ça s'est... Quel rapport vous avez, vous, au cinéma, à l'image, vous qui êtes un homme qui crée l'image par la littérature, par les mots?
Oui, si vous permettez, vous avez dit quelque chose que j'aimerais bien expliquer un peu. Oui, ce problème de la culture et qui se nourrit de gens qui ne se disent pas cultivés dont après on apprête un peu le plat de la culture et ils ne peuvent pas se le payer. Un peu comme certains pays qui produisent des arachides et puis on leur envoie des choses dans des bouteilles et qu'ils ne peuvent pas se le payer. Mmh. Et en fait, souvent, je rencontre des gens et qui ne savent pas à quel point ils sont nécessaires au cinéma, à la littérature. Et d'ailleurs, ils se croient complètement, disons, vissés au sol, complètement. Ils se disent d'ailleurs les vrais gens et que littérature et cinéma, ce n'est qu'illusion. Et je leur dis, mais au contraire, c'est vous, et c'est à cause de votre vie réelle, quotidienne, physique, concrète, qu'on fait les livres. Vous y êtes plus présent que vous ne le croyez. Il y a plus de gens qui ne savent pas lire qui sont dans les livres que de gens qui savent lire, même si les livres sont faits par des gens qui savent lire. C'est à cause de vous qu'on sent l'odeur du vrai, du juste, du réel. Et donc, vous n'avez aucune excuse pour ne pas chercher à lire. Vous n'avez pas cherché à voir des films, l'excuse de l'illusion ne tient pas. Mm-hmm. C'est vous qui produisez cette illusion qu'on appelle fiction.
Ah oui.
Au cinéma aussi, où les vies des gens, je suis en ce moment en train de prendre un bain de cinéma, et les films qui nous touchent, ce sont les films où les gens ne se regardent pas faire. Et qui est-ce qui ne se regarde pas faire? Ce sont les gens qui n'ont pas les yeux baissés dans les livres, qui n'ont pas les yeux, qui ne vont pas au cinéma, qui ne se citent pas et qui ne se nourrissent pas de citations. Et c'est ça que le cinéaste cherche. Il cherche une vie brute, primitive, jusqu'à ce qu'elle devienne une vie à citer par ceux qui ont vu les films.
Oui.
En reconnaissant les signes, les symboles, les rituels de l'amour, de la guerre, de la trahison. Mais il faut quand même la trahison pure, l'amour pur et la guerre pure. Il faut se baser avant que ça devienne et symbole, recherche intellectuelle.
Je vois l'heure tourner, mon ami. Je sens que je vais vous perdre dans quelques minutes. Vous allez retourner, j'imagine, vers une autre réunion, vers une autre. Juste un petit mot, parce qu'entre le petit garçon de Petit Goave et celui qui est rentré à l'Académie française, quelle vie absolument hallucinante. Et à un moment donné, j'ai trouvé ces mots dans votre livre, L'art presque perdu de ne rien faire, d'Annie Laferrière, où vous vous êtes demandé d'où venait le mot « province ». Puisque nous vivons dans la belle province, à force d'entendre ce mot ici, j'ai un jour cherché dans le dictionnaire la définition de province du latin provincia, qui signifie pour les vaincus, la région où l'on repousse les vaincus. Et là, vous écrivez, c'est implacable.
Le dictionnaire est ici parce que oui. c'est la Société Saint-Jean-Baptiste qui m'avait demandé de faire un discours, une lettre. Pour la fête du Québec, et j'avais été lire cela à la Société Saint-Jean-Baptiste, et j'avais demandé aux gens qui étaient là, enfin, il y avait de vieux militants burinés sous le harnais, et s'ils connaissaient la définition du mot « province », un mot qui est prononcé depuis peut-être 150 ans au Québec, oui, avec force, et personne n'avait jamais été tenté de regarder dans le dictionnaire pour voir. Et quand j'ai dit que ça veut dire « espace où l'on repousse les vaincus », alors il y a un type qui a dit « Ah ça, je le savais. Allez, il le sentait. il faut faire attention quand on va dans le dictionnaire. On risque d'y trouver la vérité.
C'est vous qui dites ça, vous qui en ce moment même participez activement à cette œuvre toujours en mouvance qu'est le dictionnaire.
Absolument.
Juste une dernière question. Cela coulait douce. D'après vous, ça vient d'où cette phrase-là?
Ah non, je ne sais pas.
Ah,
je ne sais pas.
Parce que, alors ça, vous voyez, vous, ça c'est un gros bouquin que j'adore sur les mille et une expressions préférées des Français. Puis j'aime bien comme ça quand j'ai des invités. Alors, sachez que si la bière coule parfois à flot et l'eau s'écoule des montagnes, les verbes couler et s'écouler ne s'appliquent pas qu'aux liquides et autres flux, bien sûr. Ils ont aussi une acception temporelle, puisque dans le 15e siècle, on dit que le temps s'écoule. Donc, on ne disait pas ça avant. Et depuis le 17e, on utilise l'expression « couler des jours heureux ». Alors, aussi bien ainsi une vie est bien du temps qui passe et qui s'écoule. Or, il se trouve que notre expression apparue au 19e est simplement une forme elliptique de couler une vie douce, finalement. Cela couler douce, c'est la transformation quoi, de cette formulation-là. Je trouve ça très beau.
C'est très, très joli. Ce n'est pas loin de s'épivarder.
Oui. Est-ce qu'on sait d'où ça vient, ça, s'épivarder?
Non, mais c'est du Québec, et enfin, c'est le mot qu'on emploie le plus. C'est un des mots que je trouve très beau,
que
j'aimerais bien faire entrer dans le
dictionnaire. Il n'y a pas un espèce d'éparpillement dans s'épivarder?
Oui, s'épivarder, en tout cas.
Il y a quelque chose, je ne sais pas, j'ai toujours pensé, moi, je me trompe sûrement, j'ai toujours vu comme quelqu'un qui va dans la campagne.
Oui, c'est ça.
Se repose le long d'une rivière. Mais c'est peut-être pas cela, c'est peut-être s'éparpiller.
Oui, moi, je pense que c'est plus une idée d'éparpillement. D'ailleurs, on va vous laisser aller vous éparpiller entre un film et un autre. Dany Laferrière, nous avons tous et toutes été très, très heureux de vous accueillir ici. Vous savez que pour nous, c'était un événement. Je ne sais pas si vous...
Ah non, merci, absolument, bien sûr. Ça fait longtemps qu'on devrait faire ça et qu'on n'a pas pu. Et cette fois-ci, j'avais une fenêtre, une lunette.
Et très gentiment, vous m'avez tout de suite répondu, je dois dire. Et vraiment, ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça va rester un des grands moments de radio. Merci.
Ah mais merci, merci.
Bonjour Gérald.
Bonjour Clotilde.
Comment ça va en ce début de saison pour vous?
Bien, bien, bien. Nous avons un bel été.
Nous avons finalement eu un bel été. Hein.
Je fais de belles lectures.
Oui.
La vie est belle.
Et puis, je voudrais dire que vous êtes beaucoup à l'origine de ce nouveau titre des livres plein les oreilles.
Ah bon?
Ben, vous vous souvenez pas, à un moment donné, on s'est parlé. Et puis, moi, j'avais... ça tournait en rond, mon affaire. Des livres et des oreilles.
Oui,
des oreilles
oui,
et des livres.
Oui, oui.
Puis à un moment donné, c'est vous qui m'avez dit... Des livres plein les oreilles. Puis
ah
j'ai
bon?
Fait « Ah, vous vous souvenez pas ?»
Ah bah alors j'ai un copyright là-dessus.
C'est ce que j'allais dire, là si vous me demandez un chèque, je suis pas dans... Gérald, bon. Vous avez peut-être entendu que nous avons eu un grand événement avec la présence de Dany Laferrière en
oui,
studio.
Oui, j'ai écouté tout à l'heure, après il y a eu une jolie musique.
Voilà, et puis, mais là voyez-vous, on va être obligé. Il nous a pris beaucoup de temps le bougre.
Oui,
Est-ce que vous... Mais ne lui en veuillez pas.
Non, pas du tout.
Bon.
Je suis bon prince.
Oh, merci Gérald. De quel livre nous parlez-vous aujourd'hui?
Aujourd'hui, je vous fais voyager grâce à Dominique Fernandez.
Oui.
Un monsieur d'un âge respectable, il est né en 1929.
Mm-hmm.
Alors Dominique Fernandez, né en 1929, en France bien sûr, son père était d'origine mexicaine. Alors c'est un monsieur qui est romancier, essayiste. Il a écrit d'ailleurs plusieurs livres sur la Russie, parce que je vais vous parler de Russie.
Mmh.
Et il a été élu à l'Académie française, et ça vous rappelle quelque chose, en 2007.
Okay.
Donc, Transsibérien, c'est le titre du livre qui est disponible, je le précise, à l'INCA seulement,
d'accord,
à l'INCA seulement. Alors, Transsibérien, c'est un voyage que notre ami Fernandez a fait avec une vingtaine d'autres écrivains, journalistes, photographes,
mm-hmm,
en 2010, parce que c'était l'année France-Russie. Alors, à bord du Transsibérien, première classe, je le souligne, parce qu'il n'y a pas, hélas, qu'une première classe, il y a la troisième, la quatrième,
oui,
mais c'est pas très joli, paraît-il.
Mm.
Enfin, 2010, c'était pas très joli. Donc, à bord du Transsibérien, il va faire le voyage entre Moscou, qui est la capitale de la Russie d'Europe, à Vladivostok, qui, elle, est la capitale de la Russie d'Extrême-Orient.
Oui.
Eh bien, c'est 3 semaines, ça. 3 semaines sur les rails.
Oui, parce que c'est 9000 kilomètres.
Voilà. Hein. Ah, vous m'arrachez les mots de la bouche.
Oh, pardon, mon ami. Pardon, Gérald.
En fait, il a pris 3 semaines. C'est parce que,
oui,
bien sûr, il s'arrête ici et là.
Mm-hmm.
Apparemment que ça prend 1 semaine ou 10 jours pour faire le voyage. Bon, eux vont prendre 3 semaines, 9000 kilomètres.
Mm.
Ils vont arrêter à bien des endroits.
Mm-hmm.
Donc, c'est un récit qui est émaillé, vraiment émaillé de références littéraires et historiques. C'est une sorte de voyage physique. Bien sûr, on se déplace, mais en même temps, voyage spirituel pour Fernandez. Alors, on va se promener comme
oui,
ça, de la place rouge de Moscou à Tchekhov. On va parler de Staline, puis on va bien sûr parler beaucoup de Sibérie. Hein.
Oui.
C'est la région principale qu'on va visiter. Et cette Sibérie, bien sûr, il va donc la parcourir amoureusement, et le mot est faible.
Oui.
Mais ce voyage, c'est un prétexte. Hein. Il va parler de l'homosexualité en Russie, difficile, comme on le sait, du culte actuel de l'argent. Il y a beaucoup de considérations sur l'architecture, parce que Fernandez est un spécialiste de l'art baroque, entre autres
oui,
choses. Et il va parler, évidemment, du voyage comme tel. Il va parler, bien sûr, des Russes. Il va leur dire, d'ailleurs, que le sens du comique leur manque, étrangement.
Ah oui, hein.
Ils préfèrent le sarcasme et la dérision. Et là, il va citer Gogol, par exemple.
Oui.
Mais, par ailleurs, il parle beaucoup de l'amour qu'ont les Russes pour la poésie, on le savait. La musique, on le savait aussi. La danse, on le savait aussi. Et la musique, il va dire, il n'y a rien de plus... Enfin, rien n'est aussi naturel pour un Russe que la musique. Non, la phrase exacte, je pense que c'est la musique est aussi naturelle. Non, aimer la musique, voilà. Aimer la musique est aussi naturelle pour un Russe qu'aimer l'air qu'il respire. Et il raconte une toute petite anecdote. Il est dans une maison privée où il y a 2 pianos. Et là, il dit à ses hôtes que les Français n'ont pas tous un piano dans leur maison. Et là, stupeur de ses hôtes, comment vous n'avez pas de piano dans vos maisons? C'est pour vous dire. Hein?
Ah, oui, oui.
Et je reviens donc à cette Sibérie.
Mm-hmm.
Là, il va parler de la taïga. Immensité de la taïga. Et ce qui est étonnant, c'est que le paysage en soi ne varie pas, ou très peu, mais malgré cela, il va dire « j'admire jusqu'à la limite de mes forces ». Alors, il y a là une sorte de contemplation hypnotisée devant cette taïga. Donc, malgré ce qu'il appelle la permanence du même, eh bien, il est en une sorte de pamoison devant ce paysage et il ne s'ennuie pas une seconde, au point de dire d'ailleurs sur le voyage que, selon lui, le vrai voyage ne consiste pas à attendre du nouveau, non, pas du tout, mais dans cette espèce de abolition, en fait, à abolir la distance ou la distinction entre le soi et le monde dans une dilatation justement de l'individu à l'infini. Mmh. Alors ça, c'est une belle... Je l'ai massacré un petit peu, vous me pardonnerez, mais c'est essentiel.
Oui.
Voilà, donc le voyage, c'est vraiment un prétexte pour Fernandez à méditer sur tout. Et je dirais que voyager avec un guide pareil, c'est une expérience hors du commun. Enfin, moi, il faut dire que j'ai un faible pour la Russie.
Ah, c'est ça.
Et c'est pas Fernandez qui va me l'enlever. Hein, parce que d'autant plus que ce monsieur, donc, je l'ai dit au début, il a écrit quand même plusieurs livres sur la Russie. Il aime de toute évidence ce pays, malgré ses défauts. Mais quand on le lit, on voit à quel point la Russie, quand même, a traversé, on le sait, hein, des années difficiles. On n'a qu'à penser à la dernière guerre. Alors, Fernandez vraiment nous rend ce pays tel qu'il est aujourd'hui, et en particulier cette Sibérie qui n'est plus du tout celle des camps et des prisons. Non, la Sibérie, maintenant, il y a des régions en Sibérie où, qui sont plus prospères, comme Moscou, par exemple. Donc, ça va quand même nettement mieux.
Oui, parce que quand on pense à la Sibérie, on voit d'énormes steppes, évidemment, tout est glacé, tout est... Mais non, c'est pas... D'abord, ils ont un été aussi là-bas.
Oui.
C'est un petit peu comme chez nous, comme les Français qui découvrent qu'il peut faire plus de 30 degrés
malgré
au Québec.
Malgré cette espèce de permanence du paysage, il va arriver par ses nombreuses références littéraires. Là, il y a beaucoup d'écrivains qui sont convoqués. Dostoïevski, Théophile Gautier, Gorky, Pushkin, Tchekhov,
Solzhenitsyn, etc.
Et il nous donne en plus le goût de lire ou de relire ces auteurs-là. Et j'ai oublié Jules Verne, qui n'a pas lu dans son enfance Michel Strogoff.
Bien,
tout est là dans ce périple, dans ce voyage de M. Fernandez. Tout est là. Et je terminerai, Clotilde, en parlant
Vous avez du temps, mon ami.
Ah, d'accord.
Oui, vous avez encore un bon gros 2 minutes avec nous.
Il fait une chose que j'aime beaucoup, c'est qu'il fait une référence à un écrivain russe d'origine, enfin un écrivain français maintenant d'origine russe, que vous connaissez sûrement, Andrei Makin,
j'allais y venir.
J'étais très content de le voir là. Et étonnamment, Makin est quasi inconnu en Russie. Ça m'a surpris.
Ah oui?
Oui, quasi inconnu en Russie. Et pourtant, il va dire, il n'y a pas plus sibérien que Makin. Et il donne la preuve, un livre qu'on peut trouver d'ailleurs, un livre adapté, au temps du fleuve Amour. Alors, pour ceux qui aiment Makin, ils seront servis parce que Makin, de toute évidence, plaît à notre ami Fernandez. Et d'ailleurs, quand Fernandez a fait son voyage en 2010, 4 de ses livres, et vous savez qu'il a une œuvre très abondante, 4 seulement de ses livres étaient traduits en russe. Et il dit d'ailleurs quelque part que durant ces 3 semaines, il n'a trouvé qu'une seule personne qui avait lu un de ses livres.
Oh là là. Alors,
ça l'a un peu déçu. D'ailleurs, ça aussi, ça l'a un peu déçu, c'est que les Russes qu'il a rencontrés connaissent très peu la littérature française actuelle, alors que les gens avec qui Fernandez était connaissaient davantage, eux, la littérature russe contemporaine.
Bon.
Mais ça, ce sont les hasards des rencontres.
Alors, quelques titres. OSQLA, Jérémy est dans la main de l'ange. Aliencea, Nicolas, Ramon aussi. Et le merveilleux La course à l'abîme. Et il nous reste 5 secondes. Je vous remercie tellement, Gérald. À bientôt.
À bientôt, Clotilde. Au revoir.
Vous écoutez Des livres plein les oreilles avec Clotilde Seille et ses invités.
Oh bon Dieu, ce qu'il peut faire chaud. On a pourtant mis le ventilo. Ma poupée couchée sur le dos, elle peut pas fermer ses petits rideaux. D'un petit air innocentissimo, les yeux crépitants comme des fagots, elle me dit, viens, essayons de faire dodo. La petite sieste, elle a bon dos. Dehors, des gens parlent de friture et de protection de la nature. À 4 heures, ils mettront leur chapeau pour aller voir mourir le taureau. La fermeture se coince entre mes doigts, elle cambre en avant son ventre plat. À ses blue jeans, c'est pas un cadeau, dit-elle en pédalant sur le dos. « Soudain je vois au bout d'une lande un petit paquet de Maryland qu'elle roule entre ses cuisses en ciseaux. C'est la plus jolie pièce du trousseau. C'est alors qu'elle se met à son tour à me dépiauter comme un vautour. Ses mains sont des hélices de bateau. La petite sieste est la bandeau. Dehors on entend le marchand de beignets dire qu'à la rentrée ça va saigner. Une femme dit quelle petite conce chose. On saura jamais de qui qu'elle cause. Les baisers maintenant tombent sur moi comme les hirondelles dans le froid. J'ai comme des petits glaçons dans la peau. La petite sieste est la bandeau. Le soleil a plié ses genoux. Le marchand de beignets a mis les bouts. Dans l'arène, un taureau sanguinaire est tombé le nez dans la poussière. Ma poupée s'éveille et dit j'ai faim. Cette petite sieste m'a fait du bien. Demain on la commencera plus tôt, car je sens bon Dieu qu'il va faire chaud.
Bonjour Jacques Tremblay.
Bonjour Clotilde.
J'ai choisi cette sieste parce que c'est un des moments préférés de notre invité du jour que nous avons reçu en première demi-heure. J'ai nommé Dany Laferrière. Dieu sait si pour lui la sieste c'est fort important. Et je trouve que ça nous amène bien vers cet autre livre de Dany Laferrière dont nous parlons aujourd'hui. Un livre que vous avez lu à voix haute pour nos auditeurs.
Oui, écoutez, on parle d'un journal, du journal d'un écrivain en pyjama. Je dois vous avouer qu'après l'avoir lu et relu, j'ai fait de cette œuvre un livre bis, comme il appelle. C'est-à-dire un livre qu'on redécouvre avec encore plus d'enthousiasme lorsqu'on l'a lu pour la deuxième fois. Et je me demande s'il a pu faire une sieste, ce bonhomme-là, dans sa carrière d'écrivain, tellement les idées viennent à profusion. Oui. Le style est toujours surprenant, étonnant. Il peut dire la même chose à deux moments dans son livre, peut-être même à trois ou à quatre, mais c'est toujours du nouveau. Alors, c'est vraiment une œuvre... Non, je ne sais pas s'il peut faire une sieste. Il peut garder son pyjama, mais...
on peut peut-être... je pense que c'est pas moche de dévoiler, mais tout à l'heure, lorsqu'il est parti, on a réussi à s'entretenir très rapidement avec lui parce qu'il fallait qu'il s'en aille. Et vous lui avez posé une question, vous lui avez dit, mais... Comment ça s'est passé exactement?
Comment trouvez-vous à continuer à écrire avec toutes vos occupations, etc.? Et je n'écris pas, je publie. Alors, il faudrait décoder ça. Alors, je pense qu'il faudrait surveiller. Écoutez, le journal d'un écrivain en pyjama, le souvenir que j'avais de la lecture que j'ai faite, je crois que c'était à l'automne 2013, c'est que c'était grosso modo des conseils aux écrivains. Et que ça mettait beaucoup l'emphase sur l'importance de lier... l'écriture et la lecture, l'auteur et le lecteur. Et donc, de l'importance de considérer le lecteur dans son geste d'écrire ou dans son métier d'écrire, même s'il dit des fois que l'écriture n'est pas un métier. Alors, je me rappelais de certains de ces capsules, parce que c'est une série de mini-chroniques, dont des titres étaient assez évocateurs. Trouver le titre. Donc, j'ai un livre, je l'ai écrit, maintenant je dois trouver le titre. Comment faire? Que faire des digressions dans un roman? Dans un roman, il y a un fil de l'histoire et puis il y a des digressions, il y a des règles qui s'appliquent au niveau des digressions. Pas trop tôt dans le récit, tant que les éléments principaux du récit ne sont pas installés.
Il y a des trucs et des combines quand
même. On ne s'offre pas de, on ne se permet pas trop de digressions. Les dialogues, revenir à la base. Il donne entre autres certains constats de son expérience, comme par exemple, il a pris un certain temps avant d'utiliser le « ça » dans ses romans, C-C-D-I-A, pour cela, parce que ça ne répond pas au canon de la littérature. Et puis, tout à coup, c'est devenu naturel. Et puis, à l'intérieur du même paragraphe, il nous a glissé trois « ça », sans qu'on s'en rende compte. Bon, alors ça, c'était... Et l'étroite connexion avec le lecteur, bien, c'était le sens de la continuité entre le fait d'écrire, le fait d'être publié et le fait d'être lu. Je peux vous donner un exemple de la façon dont il évoquait ce genre d'enjeu, si vous voulez. Alors, il écrit dans sa chronique 106, de 202 chroniques, quand même, c'est quelque chose. Là, en ce moment, écrit-il, je suis en train d'écrire ce livre, je suis un écrivain, donc je produis des signes. Ce sont de minuscules points noirs qui s'accumulent jusqu'à créer une image. Des centaines de milliers d'images font un livre. Mais pour mettre en marché ce livre, il faut mobiliser beaucoup de gens, un éditeur, un correcteur, un graphiste, un diffuseur, des libraires, des critiques et parfois des avocats. Tout ça pour permettre au livre d'atteindre le lecteur. Vous l'avez maintenant en main, c'est un objet rectangulaire qui a un certain poids. En le lisant, vous vous connectez directement à mon cerveau. Tous les intermédiaires s'effacent à présent. Nous voilà enfin réunis. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, et pourtant nous vivons un moment d'intimité intense. Je vous transfère mon énergie que vous allez transformer en jouissance. Et ce livre peut vous pousser à écrire, c'est-à-dire à vouloir transmettre votre énergie à quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous n'avez jamais vu, on dirait une secte.
Mais oui. Alors. Mais c'est, en plus, Jacques, c'est que là, il y a un autre intermédiaire dans notre cas, c'est que ceux qui écoutent ces livres-là, nous sommes lecteurs à voix haute.
Exact.
Nous sommes encore un autre intermédiaire. J'espérais tellement qu'il soit encore là avec nous. Malheureusement, à cause de son agenda, ce n'était pas possible. Mais justement, pour évoquer ça avec lui, parce que c'est complètement différent de lire un livre à voix haute et de l'entendre, ou alors d'avoir un « Ah, il en parle ».
C'est vrai. Mais un de ses auteurs, lecteurs préférés, parce qu'à l'intérieur de cet essai ou de cet ensemble de chroniques-là, il nous révèle l'importance de la lecture. Mm-hmm. Et à travers la lecture, un de ses lecteurs préférés, savez-vous c'est qui? C'est Jorge Luis Borges.
Ah, Borges, oui.
Et Borges, c'est quoi? Aveugle.
C'est vrai.
À partir de l'âge de 40 ans, sa vue décline et à 50 ans, c'est fini, il ne peut plus voir. Et qu'est-ce qu'il devient à 50 ans? Borges, directeur général de la Bibliothèque nationale d'Argentine.
Et c'est formidable.
Pourquoi le devient-il? Parce qu'il a beaucoup lu. Et dans le cas de Borges, l'admiration de la Ferrière qui, à l'intérieur de ce cahier-là, j'ai dit la première impression que j'avais eue au moment de la lecture, en le relisant, je m'aperçois qu'il y a deux autres trames à l'intérieur de ce récit ou de cet ensemble de chroniques-là. D'abord, le commentateur, le chroniqueur littéraire qu'est Dany Laferrière. Alors, tout le monde y passe dans ce livre-là. Homère, Érasme, les Russes, Dostoïevski, Tolstoï, Gogol, les Français, Flaubert, Stendhal. Tout le monde y passe. Les Anglais, les Américains, Virginia Woolf, Henry Miller, le Marquis de Sade, Samuel Beckett, les classiques haïtiens comme Jacques Roumain, Marcel Proust.
Oui, dont on n'a pas eu le temps de parler, Jacques Roumain. C'est un auteur merveilleux qu'il...
Et ce fameux Borges. Alors, je n'aurai malheureusement pas le temps de citer l'extrait, mais ceux qui l'écouteront auront peut-être l'occasion
Absolument. Écoutez, alors, on va prendre
chez Borges,
le temps, mon ami.
Il combine, dans le fond, le crédit qu'il donne à la lecture et au lecteur. Vous n'êtes pas seulement un individu, il y a aussi l'écrivain dont on se demande s'il ne préfère pas lire à écrire. C'est le cas de Borges qui ne parvient pas à dissocier l'un de l'autre. Il pratique cet art magique, l'érudition merveilleuse. Il plonge dans la bibliothèque comme dans la mer pour ramener à la surface les poissons des grands fonds qui s'appellent Dante, Coleridge, Kevin, et il cite une quinzaine d'auteurs, et naturellement Shakespeare. De fins portraits de ces écrivains pullulent dans ses brillantes enquêtes 1937-1952. Borges raconte qu'un jour, il est entré dans la bibliothèque de son père et n'en est plus jamais ressorti. Ses écrits fourmillent d'écrivains, de réflexions sur les livres qui s'empilent sur sa table de chevet. Et l'étonnant, c'est que ce lecteur intrépide est aveugle. Mmh. Ce sont de jeunes amis, Alberto Manguel fut l'un d'eux,
oui,
qui lui font la lecture. Il m'a fait connaître les Anglais. Et alors là, bon,
Ferrière raconte
l'admiration. Donc, la transmission orale fait partie de la perception de la Ferrière dans, je dirais, la chaîne de transmission entre l'auteur et le lecteur.
Jacques,
puis,
vous avez dit...
la deuxième grande trame...
Ah, pardon, excusez-moi, oui.
Qu'est-ce que j'ai dit? Je vous laisse l'initiative.
Non, mais parce que, vous savez, je vous dis, quand même, l'heure tourne un petit peu, mais on va quand même parler de cette deuxième grande trame. Mais vous savez, je m'aperçois, parce que ce livre-là n'a pas eu aussi bonne presse que, par exemple, celui dont j'ai parlé avec Daniela Ferrière plus tôt, L'art presque perdu de ne rien faire. Et vous avez dit que, finalement, c'est un livre bis. Et je pense que peut-être que les gens auraient gagné à le relire une deuxième fois. La deuxième trame, prendre le temps.
La deuxième trame, c'est simplement que ceux qui connaissent moins la Ferrière et ses... étapes de vie vont les retrouver au fil de ses chroniques. Donc, on le retrouve sur la galerie de grand-mère à Petit Havre. On le retrouve en visite chez ses tantes à Miami qui sont un peu frustrées de se voir présenter de façon un petit peu débroussaillée ou débraillée, dirions-nous. Donc, on le retrouve à Montréal à son arrivée quand il s'attelle à sa première œuvre et surtout à sa promotion, la promotion de sa première œuvre. Et puis... on le retrouve également à Port-au-Prince au moment du séisme avec son fameux carnet.
Ah oui. Hein.
Et ça, le carnet, c'est une clé chez La Ferrière. Sans carnet, il n'est pas l'écrivain parce que la mémoire est une secrétaire qui fait parfois la grève, dit-il. Puis-je conclure par la lecture d'un...
Il est intarissable. Comment voulez-vous que je vous dise non?
C'est qu'à chaque fin
tellement
de chronique...
Tellement charmant, Jacques.
À chaque fin de chronique, il y a un petit biscuit qui appelle un petit biscuit chinois, qui est une espèce de citation. Où est-ce que c'est qu'il dit? C'est comme un biscuit chinois que vous dégustez à la fin du repas. Des fois, ça vous convient, d'autres fois pas. Donc, à la fin d'une de ces chroniques, il y dit, et ça le décrit bien, « Un écrivain est un enfant perdu dans la forêt qui ne cherche plus à retourner à la maison en découvrant qu'il n'a rien oublié, puisqu'il avait pris la peine de glisser dans sa poche ces 26 petites lettres lumineuses de l'alphabet qui vont éclairer son chemin. »
Ah oui.
C'est là-dessus, Fouquier.
Ben, merci beaucoup, Jacques Tremblay. Merci, Jacques, qui a lu le journal d'un écrivain en pyjama, de celui qui décidément était vraiment l'invité vedette de cette émission des livres pleins les oreilles, Dany Laferrière. Alors, c'est l'heure de la bande-annonce. Nous recevons qui et qui viendront parler de quoi la semaine prochaine? Eh bien, la semaine prochaine, je reçois la journaliste Mylène Moisan. Dieu sait si je lis beaucoup les articles, les papiers, les portraits, les dossiers de Madame Moisan qui paraissent dans Le Soleil et quelquefois dans la presse en fin de semaine. C'est quelqu'un qui aime les humains. Et c'est quelqu'un qui en parle très, très bien dans ses chroniques. Et à un moment donné, elle a raconté l'histoire de Joliane Fortier. Et c'est une histoire qui a touché des milliers de lecteurs lorsque Mylène Moisan donc, lui a consacré une chronique dans le quotidien Le Soleil. Mais cette histoire ne commence pas quand Joliane a appris qu'elle souffrait d'un cancer du sein et elle ne s'arrête pas quand elle est partie à 31 ans. Alors ce livre, c'est d'abord le récit de sa vie, de la vie de Madame Fortier, portée par l'écriture digne et touchante de cet auteur qu'est Mylène Moisan. Ne manquez pas cette rencontre-là. Et Mylène Moisan qui a donc rédigé ce livre, « Maman est une étoile ». C'est de ce livre-là dont il sera question la semaine prochaine avec l'auteur même, Mylène Moisan. Et puis, pour une fois, je n'aurai pas deux, mais trois invités en studio. J'ai demandé à l'actrice, à la comédienne Pascale Monpetit, de venir à l'émission. Elle a accepté. Pourquoi? Parce que j'ai... Pascale Monpetit va faire une lecture publique, et ça j'ai pensé que ça vous intéresserait, dans le cadre du FIL, du Festival international de littérature à Montréal. Elle va faire une lecture du 28 septembre au vendredi 2 octobre de 12h à 13h à la Maison des Écrivains, au 3492 avenue Laval à Montréal. Et elle va lire quoi? Eh bien elle va lire La tournée d'automne de Jacques Poulain. Alors elle va venir donc pour nous présenter La tournée d'automne de Jacques Poulain, ce livre dont elle le lira de larges extraits durant une petite semaine. De quoi il s'agit? Il s'agit de la tournée d'un chauffeur de bibliobus entre Québec et la Côte-Nord, dont la vie monotone va changer après sa rencontre avec Marie. Lorsque je suis allée voir dans les pages du fil ce qu'on nous disait sur cette histoire et sur Pascal Monpetit, j'ai lu ceci. Les enfants adorent se faire raconter une histoire, les adultes aussi, et vous aussi qui nous écoutez. Si la lecture est un acte solitaire qui permet à un lecteur d'entrer en contact intime avec un auteur, un texte, un univers et des personnages, la lecture à voix haute contribue à rendre encore plus vivante une œuvre littéraire. C'est pas ici, chez Vues et Voix, qu'on vous dira le contraire. Et c'est ce que permet ce rendez-vous privilégié avec Pascal Monpetit, qui a choisi de mettre toute sa sensibilité et son talent au service des mots de Jacques Poulain, l'un des romanciers québécois les plus aimés de sa génération. Alors ne manquez pas ça la semaine prochaine, également avec moi autour de la table, la comédienne Pascal Monpetit. Des nouvelles et des livres. On va avoir le droit bientôt à l'aborder à Québec. C'est jusqu'au 10 octobre. On a droit à une véritable leçon de dramaturgie québécoise. L'une des plus importantes récompenses, vous savez, en théâtre, porte son nom et Ticoque est son chef-d'œuvre ultime. Il est distribué à presque tous les élèves de niveau secondaire ou collégial. Oui, même 16 ans après sa mort, Gracien Gélinas continue de faire battre les cœurs des Québécois et le directeur artistique Jacques Leblanc l'a bien compris. C'est Jean-Philippe Joubert, enseignant au conservatoire et figure de proue des arts de la scène à Québec, qui s'attaquera donc et qui s'attaque à la mise en scène de Bousille et les Justes. C'est commencé hier, 15 septembre. C'est une histoire judiciaire parsemée d'intimidation et de mensonges avec, entre autres, Christian Michaud, alias Scapin, l'étoile montante Jean-Denis Baudouin, auteur de Mes enfants n'ont pas peur du noir, et aussi le comédien cinéaste Elliot Laprise. Alors je vous rappelle que c'est au théâtre Labordé jusqu'au 10 octobre à Québec. Et puis Big Brother vous regarde. L'inventive Edith Patenaude est de retour au Trident, 2 ans après son habile adaptation de la pièce contemporaine L'absence de guerre. Alors cette fois, elle s'attaque à un roman culte du XXe siècle, L'indémodable et troublant 1984 de George Orwell, sur scène. Une histoire d'amour sur fond de régime totalitaire, c'est archi oppressant que ce livre-là. Cela mettra en vedette Maxime Godet, qu'on a pu voir dans Incendie aussi ou dans le film Polytechnique, et puis une pléiade d'interprètes locaux de très haut calibre, tels que Jean-Michel Derry, qu'on a vu dans Hamlet, Régent Vallée et Véronique Côté. Et puis, il y aura aussi Alexis Martin. Alors, voyez-vous, sur papier, cette reprise, nous dit-on, ne peut qu'être un immense succès d'estime, mais aussi populaire. Ce sera au Trident du 3 au 28 novembre prochain. Alors, je suis allée voir. Vous savez, on n'a pas grand-chose, je trouve, de Gracien Gélinas disponible, mais quand même. OSQ est là, on a Bousille et les Justes, si vous voulez vous replonger dans cet univers. On a aussi, et ça c'est en braille uniquement, mais pourquoi pas, hier les enfants dansaient en théâtre, et puis Ticoque aussi, cette pièce en 3 actes qu'on peut lire, qu'on peut soit entendre, oui, ça existe en livre sonore ou encore en braille. Quant à M. George Orwell, on ne dispose que de 2 choses. On a 1984 qui avait été enregistré par la Magnétothèque en 2009. Et puis, également en braille, si cela vous intéresse, La ferme des animaux, c'est également de M. George Orwell. Alors, une petite musique intermédiaire et on s'en va vers les titres en rafale. Alors, quelques titres en rafale. Je vais commencer par Georges et Georges d'Éric Emmanuel Schmitt. Un petit résumé. Après quelques années de vie commune, Marianne et Georges ne se supportent plus. Elles regrettent le Georges amoureux, naïf des premiers temps. Lui, il désire une femme plus pimentée. Grâce au docteur Galopin, spécialisé en électromagnétisme, ils vont chacun être mis en face de leurs rêves. Et ils devront le cacher à l'autre. Et c'est là que le cauchemar commence. D'un appartement parisien jusqu'à l'ambassade de Batavia, les portes claquent, les amis, devant l'hystérie de six personnages qui se fuient et se poursuivent. Oui, c'est une comédie déjantée sous le signe de Georges Feydeau, où les quiproquos s'accumulent, entraînant des surprises et des fous rires. On comprend mieux pourquoi le titre de Georges est Georges. Tenez un petit extrait ou deux, bon, vraiment des très très courts, je dirais plutôt comme des citations. J'ai remarqué que quand une femme cause, c'est pour ne rien dire. Donc, quand elle ne dit rien, c'est qu'elle parle. Oh. Et puis il y a ça aussi, plus la femme est légère, plus les dépenses sont lourdes. Et enfin celle-ci, quel dommage qu'on ne puisse pas tromper son mari sans prendre un amant. Et puis nous parlions de Jacques Poulain et de Pascal Monpetit qui va lire du Jacques Poulain dans le cadre du Festival international de littérature et qui sera à l'émission la semaine prochaine. Eh bien, j'ai un livre à vous proposer de Jacques Poulain qui vient juste d'arriver au SQLA. Ça s'appelle « Un jukebox dans la tête ». Un jukebox dans la tête. C'est l'histoire de Jack Waterman, qui est l'écrivain le plus lent de la ville de Québec. Et une surprise l'attend lorsqu'il prend l'ascenseur ce matin-là. Il y a là une rousse de 25 ans, très mince, jolie, portant des lunettes orangées, qui lui donne des palpitations en lui déclarant en douce « J'ai lu tous vos livres et je vous ai fait une petite place dans mon cœur ». Alors à partir de là, si vous voulez en savoir plus, je vous recommande de vous procurer un jukebox dans la tête de l'écrivain québécois Jacques Poulain. Voici un livre que beaucoup parmi vous attendaient parce qu'on en a tellement parlé. Alors voici maintenant qu'il arrive en version audio adaptée, il s'agit de « Soumission » de Michel Houellebecq. Difficile de résumer cela, mais quand même. Mettons qu'il s'agit d'une anticipation dans laquelle un parti musulman remporte la présidentielle en France contre le Front National. Le Front National, dirigé à ce moment-là par Marine Le Pen, on est un petit peu plus loin qu'on n'est plus en 2015 au moment de ce livre-là. Marine Le Pen a perdu le scrutin de 2017. Elle subit la loi d'une espèce d'alliance entre les partis de gauche et de droite, associée à la Fraternité musulmane, qui est donc un parti inventé par l'auteur. Et son leader s'appelle Mohamed Ben Abbès, et il finit par être élu. Et il choisit François Bayrou comme Premier ministre. Il faut savoir que François Bayrou est, je pense, l'homme politique le plus terne qu'on n'a jamais connu en France depuis que la politique existe et que la démocratie existe. D'ailleurs, il fait le bonheur de tous les caricaturistes et autres comiques. Alors, ce François, qui est le narrateur et professeur d'université, mais pas n'importe où, à la Sorbonne, eh bien, suite à cette élection, on propose à tous les professeurs de la Sorbonne de prendre leur retraite anticipée ou bien de se convertir à l'islam. Alors, tout le livre sera sur le questionnement « qu'est-ce que je fais ?» Surtout que l'homme est un homme à femme. Et là, ne voilà-t-il pas que tout d'un coup, les étudiantes portent... c'est quasiment la burqa, quoi. Elles se cachent et tout. Alors, honnêtement, je l'ai lu, ce livre-là, et je l'ai trouvé excellent. L'écriture de Michel Houellebecq aussi, et il a vraiment une très très belle écriture. Ce n'est vraiment pas le livre, en tout cas, je m'attendais à une horreur, et ce n'est pas ça. Et c'est tout à fait bien imaginé, après tout, pourquoi pas. Vous savez qu'on n'est peut-être pas complètement dans la fable non plus, on ne sait jamais. J'ai encore deux livres à vous proposer. Le livre d'Alain Vadeboncœur. Je sais que l'amie Marianne Paquette a déjà accueilli Alain Vadeboncœur à son émission. Ça s'appelle « Les acteurs ne savent pas mourir ». L'urgentologue Alain Vadeboncœur, qui est le fils, de l'essayiste Pierre Vadeboncœur, présente dans ce livre-là, comme autant de scénettes, les histoires de patients qu'il a vus mourir et de ceux qu'il a vus survivre, alors qu'on croyait que c'était la fin. La mort, nous dit-il, a très peu à voir avec les représentations théâtrales qu'on en fait souvent. La mort, pourtant, elle existe bien pour ceux qui restent quand elle a frappé, dont, d'où le titre de ce livre « Les acteurs ne savent pas mourir ». Il a une citation ici. Il dit « J'ai tellement vu mourir. Ces corps demeurent à distance, ne dévoilent rien, ne démontrent rien, n'enseignent rien par eux-mêmes. Mais la détresse des familles me réapprend chaque fois la tragédie humaine. » Au chevet de son mari gisant, une vieille femme n'est plus que douleur, blessure et vide. Je pose ma main sur son épaule frêle. Cette main, c'est ma prière. Cette prière de la solidarité ne vaut pas, on l'aura compris, que pour les médecins. Voilà, et puis enfin, un bon bouquin que je suis en train de lire, Le complexe d'Eden Bellwether, que je vous recommande aussi. C'est un roman magistral sur les frontières, la frontière entre génie et folie, une manipulation avec des jeux pervers qui peuvent conduire aux plus extravagantes affabulations, à la démence ou même au meurtre. Et je précise qu'il y a une chapelle très importante là-dedans et toute la musique de chapelle et d'église qu'on peut entendre dans ces vieux murs. Donc, Le complexe d'Eden Bellwether, de Benjamin Wood, comme Wood le bois. Voilà, c'était Clotilde Seille, accompagnée par tous ses invités, Monsieur Laferrière, Dany, Jacques Tremblay et Gérald Cousineau. Merci Mathieu Tessier, merci à vous d'être là et à la semaine prochaine.